Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Got gun, Hulk left slot,
Dixie left, T left,
Mercedes, wide chip, Ricky,
Bieber left, 75, Katie, Omaha,
we're good.
Last play of the game, who's gonna win it? Luck rolling out to the right, dumps it up to Donnie Avery, yeah! Go ahead, goal line, touchdown!
Hello, bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes en direct sur Twitch en ce mardi 1er février, jour historique et j'ai un méga retour, voilà je le coupe. Bonjour à tous, je le disais donc live Twitch historique, impromptu, inattendu parce que à 15h40 aujourd'hui en ce 1er février 2022, l'impensable s'est produit, Tom Brady a pris sa retraite, nous sommes donc en direct exceptionnellement, on exploite à fond Twitch, c'est-à-dire qu'on a une chaîne Twitch active depuis 3 mois je crois. Et là, on en est à faire des lives impromptus. À mes côtés, pour parler de tout ça, il y a du monde. Raphaël Masmejean, bonjour Raphaël, est-ce que tu es là ?
Salut Alain, salut tout le monde. Et bah oui, je suis là pour ce moment historique, comme tu le dis.
Moi, je nettoie la webcam en attendant. Raphaël, très heureux de t'avoir avec moi. On a réuni la Dream Team là, un peu à l'arrache. Lucas Vola est avec nous, il va apparaître à l'écran aussi. Bonjour Lucas.
Et voilà, j'apparais, oui. Ben, salut tout le monde, salut messieurs.
Ah oui, moi j'ai un petit peu de débours. Voilà, bim, il apparaît. C'est bon, j'ai un peu de retard parce que je regarde sur l'écran officiel de Twitch. Bonjour à BenCT33, à Taco le Poulpe, à Little Ness, Lois, Serlapinou, Coche91. Je vois beaucoup de premières fois sur le chat. Je sens que l'événement mobilise des nouveaux viewers. Serviette Chat, hélas, Cornieu pour ceux qui est abonné depuis 2 mois aussi. Warthog, JD, Fox88, Dax, je ne sais plus si je l'avais dit, Griff2607. Et tout le monde, évidemment. Raph, on veut t'entendre dire que Tom est le GOAT, s'il te plaît. J'ai du mal avec le pseudo là. Mais on va y venir, ne vous inquiétez pas. Bon, messieurs, live impromptu, évidemment, puisque Tom Brady a annoncé sa retraite ce mardi. Greg va arriver, Greg est arrivé. Camille me dit dans l'oreillette, parce que j'avais oublié de dire bonjour à Camille. Camille Sarabène est avec nous à la technique, évidemment. Camille, tu peux dire un bonjour à l'antenne ou pas, toi ? Non, j'ai pas. Bon, Greg, est-ce que toi, tu nous entends ?
Salut à tous.
Ah, Greg, est-ce que tu nous entends ?
Très bien, bonsoir, messieurs.
Ah, bonsoir. J'ai une petite latence. Alors, je vous vois bouger les lèvres et j'entends le son après, mais c'est pas grave. J'espère que ça va pour nos auditeurs. Greg, ça va ? Pas trop sous le choc ?
Pas comme nous tous, j'ai envie de dire. Mais bon, je pense qu'on a un peu digéré la nouvelle depuis quelques jours. Mais bon. Au moins, voilà, on peut au moins se dire officiellement qu'il n'y aura pas un énième contre-pied et que, voilà, par esprit de revanche, Tom n'a pas changé d'avis. Donc, voilà. Non, mais pas forcément, ça reste une nouvelle importantissime, qu'elle soit officieuse ou officielle de toute façon.
Bon, là, au moins, elle est officielle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Tu l'as dit, on n'a pas trop attendu finalement, puisque Adam Schefter, c'est samedi soir. Heure française, c'était 20h30 autour de ça. Donc, on est mardi. Finalement, on n'a pas entendu trop. Ce matin, on avait mis un article quand même en une où Tom Brady déclarait dans un podcast hier « Je suis toujours dans le processus de réflexion ». Donc visiblement, le processus de réflexion, c'était une nuit de sommeil puisque le temps d'écrire le communiqué et de le poster ce matin à ce qui était quelque chose comme 8h30-9h horaire floridien, bon, il a fait une bonne nuit de sommeil, quoi.
Après, vu la taille du communiqué, pas sûr qu'il ait beaucoup dormi, hein. Il faut la passer.
Ouais, alors c'est... on va venir là-dessus parce que pour être celui qui l'a traduit pour le site, croyez-moi que j'ai pas mal de choses à dire sur ce communiqué qui lui n'avait pas grand-chose à dire en l'occurrence. On va juste mettre un petit peu en image tout ça parce que c'est Twitch, on a la vidéo, il faut en profiter. On a un superbe visuel qui a été préparé par notre graphiste Ben qu'on remercie, qu'on n'a pas voulu mettre en attente parce qu'on avait peur que ça choque trop de monde. Mais vous allez voir, c'est magnifique. C'est pour rappeler en effet que Tom Brady. Mais non, mais parce qu'en préparant l'émission, tout le monde a dit vous en parlez, on va faire des hommages et tout. On dirait qu'il est mort, donc on a mis un petit Tom Brady 2022 puisqu'il a été drafté en 199e position de la draft 2000. C'est vrai qu'on dirait qu'il est mort comme ça.
Et moi j'adore, surtout que nous aussi on est en noir et blanc du coup.
Ouais, c'est ça.
Ah oui, c'est vrai.
Il ne manque que la musique là. Fallait préparer le petit son.
Ah ouais, mais alors sache Raphaël, puisque c'est ton baptême de Twitch, que Twitch est méga galère sur les droits audio.
Ah là là.
On peut rien mettre. C'est vraiment une tannée. Il y a des trucs avec des avertissements et tout, genre dans les paramètres. Il y a des strikes et t'as le droit à 3 strikes et après c'est l'exécution.
Et ben, faut recruter un musicien qui nous fasse tous les jingles et la compo de toutes les émissions. Et puis voilà.
En fait, mais tu sais, on va le dire. Si... Ah ouais, non, mais Raoul, il joue de la guitare. J'allais dire s'il y a un violoniste dans l'équipe, tu vois, qu'on prend comme ça en direct et puis qui joue du violon pendant qu'on parle. Bon, bonjour en tout cas à tous ceux qui arrivent sur le chat, Jogactu, Delta, Orlin, Bill Swersky, et tous ceux qui sont là le dimanche d'habitude et qui sont là ce soir, et évidemment tous ceux qui découvrent ce Twitch. On va rentrer dans le vif du sujet, messieurs. Tom Brady a donc annoncé officiellement sa retraite ce mardi avec un post Instagram, un très long communiqué en blanc sur noir, qui nique bien les yeux, je ne le remercie pas. 5000 signes de traduction en français, 5521 signes, j'ai compté parce qu'à la fin, je commençais un peu à en avoir marre. Donc, c'est la fin officielle. Greg, tu l'as dit, on n'est pas particulièrement surpris en fait. Maintenant, depuis dimanche, on s'était préparé, quoi.
Oui, bah après, pour répondre à ta question initiale, mais d'une autre manière, oui, c'est sûr que samedi, quand j'ai vu fuiter la nouvelle, même si... il y avait quelques faisceaux d'indices qui avaient été laissés par Brady lui-même. Hein. C'est un des premiers à avoir abordé justement le fait que voilà, Gisèle était peut-être pas complètement à l'aise avec le fait qu'il joue aussi longtemps, etc., etc. Donc il y avait des faisceaux d'indices, mais comme depuis maintenant au moins 5 ans avec Brady, on se dit bon, de toute façon le mec c'est un compétiteur, il est toujours aussi performant. Je pense que le gars, tant qu'il a la sensation de pouvoir continuer, de pouvoir battre les autres, il va continuer. Là, manifestement, c'est pas un facteur qui rentre en ligne de compte. Et forcément, quand j'ai vu la nouvelle samedi, je vais pas dire que je suis tombé de ma chaise, mais oui, en effet, c'est tombé de manière extrêmement impromptue, en plein week-end de play-off en plus, alors qu'on aurait pu penser que ça aurait pu se faire en plein milieu de semaine, même si concrètement, c'est pas lui qui a maîtrisé l'annonce. Mais oui, donc non, c'est extrêmement surprenant malgré tout. D'une part, par le timing et en plus de par la carrière, même si, voilà, encore une fois, à 44 ans, il a plus grand-chose à prouver.
Raphaël, tu l'avais dit, je crois, dans l'émission de mardi, parce qu'on a un peu évoqué le sujet avec toi et Lucas. Tu avais dit, s'il n'est pas à 100%, il aura peut-être pas envie de continuer. C'est exactement ce qu'il dit au début du communiqué. Si on n'est pas à 100% dans le football américain, on peut pas gagner. J'ai l'impression que je peux plus être. Il dit pas j'ai l'impression que je peux plus être à 100%, mais en gros qu'il veut plus
l'être,
il peut plus être à fond.
L'être. Ouais, ouais, c'est
il
ça.
Peut plus être à fond mentalement, notamment, il le dit.
Ouais, c'est en ça que mardi ceux qui nous ont écoutés, effectivement, je tenais un peu les mêmes propos. Moi, ça me surprend pas parce que j'ai toujours été convaincu que Tom Brady s'arrêterait exactement quand il le décidait, et surtout s'arrêterait quand il sentirait qu'il peut plus être le meilleur, Donc. Peut-être que physiquement, il pouvait encore être le meilleur l'an prochain, mais visiblement, dans sa tête, c'était plus le cas. Il avait plus envie de faire ce qu'il avait l'habitude de faire depuis 20 ans, depuis plus de 20 ans pour l'être. Donc, voilà, il a décidé de s'arrêter maintenant, plutôt que de faire une dernière saison à la Manning, une dernière saison à la Roethlisberger, une dernière saison à la, comme tant d'autres, j'ai envie de dire. Pas surpris. Et je trouve que ça lui correspond totalement, en fait, de s'arrêter comme ça. Alors, bien sûr, sûr et certain, il aurait préféré s'arrêter sur un doublé, être le dernier quarterback depuis lui-même à faire le doublé. C'est sûr et certain qu'il aurait voulu s'arrêter là-dessus. Maintenant, à quelque part, le fait de pas pouvoir le faire, de pas pouvoir finir comme ça, est-ce que ça valait vraiment le coup dans sa légende de faire une année de plus? Bon, voilà, je pense qu'il y a pas mal de facteurs comme ça qui sont rentrés en jeu et décision qui me semble assez logique de sa part à lui, en fait.
Lucas, est-ce que c'était logique? Alors j'en profite quand même, merci à Mozart Cactus et à Doudou 31 770 pour leurs abonnements.
Bah moi, pour enchaîner, je pense que bah, tout ce que je partage tout ce que vous venez de dire, et surtout, il faut se rendre compte que on parle de 100% de Brady qui doit être à 100%. Il faut se rendre compte que 100% pour lui, c'est peut-être 120 ou 130% pour plein d'autres même athlètes de très haut niveau. On l'a assez charrié sur son hygiène de vie. Enfin voilà, il y a la comment vivre version Tom Brady. Voilà, c'est ça peut être parfois risible, mais je pense que ça impose tout de même une hygiène de vie et une implication vraiment au-delà de ce qu'on pourrait imaginer tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Et peut-être qu'au bout d'un moment, comme vous le disiez, il a du mal à se dire bah je peux plus m'imposer ça, ou je peux plus l'imposer aux autres, comme vous le disiez aussi. Et du coup, même si je pourrais faire comme d'autres athlètes et vivre mon football à 90%, comme ça peut arriver, il est pas comme ça. Et en effet, je pense que c'est vraiment ça qui est le déclencheur de cette décision.
Bon, une décision qui a l'air donc plutôt logique et que tout le monde a l'air de plutôt partager. Greg, tu t'étais pas exprimé à titre personnel vraiment là-dessus, mais ça te semble quand même le bon moment aussi pour partir ?
Le bon moment, je sais pas. Après, il y a une suite logique. En effet, il a réussi son pari en allant à Tampa Bay, en allant décrocher ce Super Bowl et en faisant, entre guillemets, quand même faire taire pas mal de bouches sur le côté Brady ou Belichick. C'est quand même énorme qu'il ait réussi à le faire dès la première année du côté de Tampa, même si il y avait une bonne défense, même s'il y a une ligne offensive qui a progressé. Ça s'est aussi fait clairement dans son sillage. Et là, très clairement, on le savait dès le début de saison que Tampa était un peu en mission pour essayer, comme le disait Raph tout à l'heure, de pouvoir éventuellement répéter l'exploit qui avait déjà été fait par Brady et les Pats au début des années 2000. Ça n'a pas été concluant. À partir du moment où il y avait peut-être un challenge un peu moins intéressant qu'à l'orée de la saison 2021, ça me paraît pas illogique en tout cas qu'il prenne sa retraite maintenant, même si je pense qu'il en avait encore un petit peu sous la chaussure.
Merci à Régaviv qui a offert un abonnement à la communauté. On va revoir un petit graphique, un petit visuel, toujours par notre camarade Ben, sur les principaux... Alors, évidemment, c'est très condensé. Je vous le dis tout de suite, ce que vous voyez à l'écran, c'est très très condensé. 7 titres, 5 fois MVP du Super Bowl, 3 fois MVP de la saison, 243 victoires pour un quarterback, 624 touchdowns à la passe, 84 500 yards. Il a absolument tous les records, ou quasiment tous. Il y en a très très peu qu'il n'a pas. Encore une fois, je vous épargne la liste. Hein. Il y a personne qui a gagné autant que lui en playoff. Il y a des records à l'appel. Il a jamais eu une saison à moins de 9 victoires quand même. Aussi, ça c'est assez délirant en tant que titulaire. Hein. 9 victoires, 7 défaites, c'est sa pire saison en carrière. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça ? Qu'est-ce que vous retenez de tout ça ? C'est tellement dense. Il a eu plein de carrières, hein, Tom Brady, quand même. Il y a le premier... D'ailleurs, on va essayer de définir. Dites-moi si vous êtes d'accord. On peut dire qu'il y a la première carrière, c'est le triplé avec les Patriots.
Oui.
Le Brady gestionnaire, porté par une équipe très défensive, etc. Bon, derrière, on a cette période intermédiaire, et puis 2007, avec l'explosion, il y a ce ventre mou en fait, avec l'explosion offensive avec Randy Moss et puis les Super Bowls perdus contre les Giants.
Ouais, on peut pousser, ouais, même jusqu'à 2007-2011, tout ça fait à peu près partie pour moi de cette même carrière là où peut-être c'est le moment où il est le plus fort, voire c'est peut-être son meilleur moment personnel de la carrière, et pourtant c'est le seul où il gagne pas.
Ouais, c'est paradoxal, Greg, je te vois hocher la tête, c'est paradoxal, c'est quasiment le meilleur moment individuellement et celui où il gagne pas.
Ouais, très clairement, c'est symbolisé par cette saison 2007. J'ai peut-être anticipé un petit peu sur la question, mais c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup à l'évolution de la ligue, etc., etc. C'est vrai que Brady lui-même a été un exemple de la manière dont ont évolué, notamment les attaques en NFL. En effet, ce côté, notamment au début de sa carrière dans les années 2000 et dans les premiers Super Bowls qu'il a gagné avec les Pats, ce côté avec beaucoup de jeux au sol à outrance, une défense vraiment avant tout intense, combative, opportuniste, etc., etc. Et le côté dans la deuxième moitié des années 2000 jusqu'au début des années 2010, avec justement ce jeu beaucoup plus vertical, cette utilisation beaucoup plus massive des doubles tight ends, et changeant totalement ce qu'a dit Lucas. En effet, il a été un des principaux instigateurs de ces nouvelles attaques NFL. Et voilà, c'est un peu contradictoire en effet avec le fait que ça a été sa période un peu moins prolifique. Et oui, je pense qu'en effet, on peut découper ça en, on va dire peut-être, 4 époques majeures, les 3 époques des Pats et éventuellement son court passage malgré tout du côté de Tampa. Ouais.
Donc la 3e époque des Patriots, on y arrive, ça va être celle où ils remportent les Super Bowls, donc face aux Seahawks et aux Rams, et aux Falcons, pardon.
Je ne me rappelle pas de ça. Mais les CEO, voilà, c'est les Rams.
Je faisais une petite émission. Raphaël, en plus, je pense que t'en reparleras. T'étais là pour le fameux Super Bowl que Greg n'a pas vu. Donc, ça complète. Hein. On a une équipe, voilà, avec
très diverse.
Un Super Bowl. Et puis, donc, la quatrième période, tu le disais, chez les Buccaneers. Donc, on est sur quatre périodes. On l'a dit, donc, énormément de titres, énormément de records. Qui veut se lancer? Quel est un souvenir? Allez, un souvenir chacun. Qui retient quoi de Tom Brady? S'il faut garder un truc. Raphaël, allez, t'en as vu un pas mal.
Pas facile, mais oui, forcément, je suis obligé de parler peut-être plus du Super Bowl que j'ai vu à Houston, où Tom Brady participe et est le leader de la remontée fantastique, on va dire, face aux Falcons au Super Bowl. Donc les Patriots, voilà, on le rappelle, menés 28-3 à la moitié du troisième carton à peu près, et à partir de là, et d'un sac notamment de Hightower, tout s'enraye, et Tom Brady redevient le Tom Brady qu'on a toujours vu au Super Bowl, d'une précision et d'une froideur, et presque une sorte de chirurgien du jeu, des passes qui s'enchaînent, toutes réussies les unes après les autres, et jusqu'à ce drive final en prolongation, où au moment vraiment, je l'ai déjà dit, mais pour ceux qui l'avaient pas, qui n'ont jamais entendu, moi je suis dans le stade au moment où il y a le toss, donc le pile ou face pour la prolongation, et vraiment au moment où l'arbitre explique que c'est les Patriots qui gagnent le toss, j'ai vu une flopée de gens avec le maillot d'Atlanta partir du stade. Les mecs savaient que c'était fini après la remontée, ils se sont même pas dit oh vas-y on tente d'y croire. Les Patriots revenaient de tellement loin et c'était tellement Tom Brady en mode robot tueur que ça a fait aucun doute. Et effectivement, le drive, il est d'une propreté. Enfin, ça s'enchaîne et c'est donc ouais, je dirais forcément ce Super Bowl là. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur match de Tom Brady parce qu'il est bon en fait pendant un quart temps et demi, alors que le reste, il est en galère. C'est pas son meilleur match, mais c'est peut-être son résultat le plus incroyable.
C'est quand même une proposition audacieuse de quitter le stade d'un Super Bowl juste avant une prolongation. Je vais vraiment être sûr d'eux parce que je sais pas.
Les mecs, ils viennent de voir les Patriots remonter 25 points en 15 minutes. Tom Brady récupère la balle pour commencer la prolongation. Je pense que certains se sont dit
ils ont vu Kianouni et Jalen Collins en face. Ils ont fait vas-y, c'est bon, laisse tomber.
Greg, t'aurais fait quoi? Tu serais parti, Greg, ou pas?
Non, jamais de la vie. Je pars pas déjà devant la télé alors que je suis en angoisse depuis un quart d'heure. Une grosse demi-heure. Je vais pas partir en ayant payé des billets au stade, très clairement.
À l'inverse, tu parlais de télé, mais je connais des supporters des Patriots qui sont partis en revanche au 28-3. Hein. J'en connais qui sont allés dormir.
Sans doute pas.
C'est vrai.
Des amis à moi qui sont allés dormir. Pour le coup, que ça marche dans les deux sens.
Ouais, pour avoir été avec Greg ce soir-là, il a tenu jusqu'au bout et ça n'avait pas l'air facile. Clairement.
Mais alors je confirme parce que il y avait continuer dans les coulisses. Je sais pas si ça avait déjà été dit. À la fin du quatrième quart, je suis allé donc en pause médicale, hein, donc aux toilettes. Et quand je suis revenu, on m'a annoncé que le toss était gagné par les Pats. Et là, j'ai fait bon, d'accord, c'est fini.
Je me rappelais même plus de ça. Mais moi, je me rappelle pour nos auditeurs, vous voyez, Greg, c'est un mec qui rigole souvent. Souvent, on nous dit le rire de Greg, c'est quand même communicatif dans l'émission, etc. Eh bien, sachez que ce soir-là, il ne l'a pas du tout utilisé. C'est-à-dire que c'était pas du tout le mec que vous connaissez à l'antenne. Moi, je l'avais rarement vu aussi amoché, et j'avais un peu peur parce qu'on habitait pas très loin l'un de chez l'autre. Je me rappelle, t'es rentré à pied et j'avais un peu peur quand même. Je me suis dit, est-ce que je dois le raccompagner?
Alors, je suis pas tout à fait d'accord. Sur les trois quarts du match, j'ai été extrêmement jovial alors.
C'est vrai.
Tu n'en retiens qu'une partie, c'est toi que ça regarde. Mais...
disons qu'il y a un moment où ça s'est un peu gâté. Moi qui n'avais pas vraiment de billes dans l'équation, à un moment, je me suis dit, mince, j'aurais préféré pour lui que ça se passe autrement quand même. Il a pas l'air bien. Mais en plus, ça a été en deux temps. Moi, j'avais beaucoup de sentiments pour tout le monde parce que je sais pas si tu te rappelles, Greg, qu'il y a un moment dans le match où on dit quand même, à peu près au moment où il y a 28-3 d'ailleurs, hein, et on dit, parce que c'était Raphaël le premier qui allait au Super Bowl après moi. Moi, il y avait que moi qui était allé jusque là, et je me rappelle m'être dit, oh, quand même, Raphaël, il a pas de chance, c'est un match de merde. J'aurais bien aimé pour lui, pour son premier Super Bowl, il a un match bien. Et on savait pas à l'époque que ça allait prendre ses proportions là derrière. Raphaël a donc un sacré souvenir. Greg, tu ne te souviens pas de ça, donc toi, quel souvenir tu gardes de Tom Brady si tu dois en prendre?
Non, mais alors, plaisanterie mise à part, oui, c'est sûr que c'est forcément le principal fait d'arme, parce que c'est vrai que, pour rejoindre un petit peu ce qui a été dit, sur les 7 Super Bowls gagnés, c'est peut-être celui sur lequel, entre guillemets, il a eu le plus d'emprise. Parce que les 3 premiers, on en a parlé, il y avait plus un côté game manager, et on retient surtout notamment les field goals en fin de match. Le match contre les Chiefs, c'est vrai que la défense a tellement fait le boulot que c'est compliqué de forcément plus sortir Brady sur ce match-là. Et puis c'est vrai que même si par exemple le match des Rams, on a les équipes spéciales, le match face aux Seahawks, même s'ils sont une bonne prestation en permettant notamment à New England de passer souvent devant, on retient principalement l'action de Malcolm Butler. Donc c'est sûr qu'il y a ça. Après, si je devais retenir une action, forcément, et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être l'action du 50e touchdown à destination de Randy Moss. D'ailleurs, je crois que c'est face aux Giants, si je ne dis pas de bêtises, en dernière semaine de saison régulière. Mais voilà, c'est un touchdown qui marquait à l'époque l'histoire, parce qu'il me semble que depuis, le record a été battu notamment par Manning en 2013 et Mahomes.
Oui, c'est ça. Ouais. Par contre, ça tient pour les receveurs, parce que Moss, c'était le 23e touchdown de la saison pour lui.
Donc voilà, encore une fois, c'est une action qu'il faisait passer. C'est pas uniquement cette action-là, bien entendu, mais ça symbolisait le passage, en effet, dans une autre dimension. Encore une fois, le côté vraiment patron, parce que Raph en parlait un petit peu tout à l'heure, ou Lucas, je sais plus, mais il y a toujours eu du côté des Patriots ce côté avec Brady où on se disait, les attaques sont pas toujours extraordinaires. Il y avait beaucoup un côté Spurs avec Tim Duncan, si je peux prendre la comparaison NBA. Mmh. C'est-à-dire qu'on se disait, il fait rien d'extraordinaire, mais ce qu'il fait, c'est tellement bien exécuté. Que bah après les autres arrivent à tout suivre, et c'est vrai que cette saison 2007, même s'il y avait un receveur qui enfin légendaire désormais, enfin dont on a enfin vu le plein impact, parce que ce qui n'était pas le cas pardon lors des précédentes années du côté des Raiders notamment, voilà, ça symbolisait en tout cas le fait que c'était pas uniquement le côté game manager, le côté chirurgical, c'était aussi le côté vraiment hyper spectaculaire et qui était capable de rendre cette attaque encore plus verticale qu'elle ne l'était déjà.
Après, tu parlais du premier Super Bowl contre les Rams. C'est surtout le mec qui a filmé l'entraînement des Rams qui a beaucoup pesé sur les matchs, en demi-mois. J'ai dit ça. Il a été très décisif. il a été très décisif. Lucas, un souvenir de Tom Brady.
Moi, bizarrement, je sais pas trop pourquoi. Alors forcément, il y a le Super Bowl face aux Falcons, il y a aussi celui face aux Seahawks. Mais quand je pense à un match comme ça, et c'est clairement pas forcément le meilleur, mais c'est la finale AFC d'il y a pas si longtemps que ça, en 2019, face aux Chiefs, juste avant le dernier Super Bowl, qui est pas forcément non plus son meilleur match. Je sais pas pourquoi cette finale AFC, c'est à Kansas City d'ailleurs, me marque, parce que c'est une finale, enfin c'est une finale qui va en prolongation, vous en rappelez certainement. Il y a un petit peu une bataille entre lui et Mahomes qui vient d'arriver. Je crois que Mahomes est MVP cette année-là, si je dis pas de bêtises. Il est vraiment au top de son niveau, et Brady lui fait pas un super match, il envoie une ou deux interceptions, mais il y a ces derniers drives pour passer devant, puis ensuite il y a cette prolongation aussi. Je me rappelle d'une alchimie avec Gronkowski et avec Edelman. Alors voilà, forcément tous les matchs se mélangent un petit peu et tout ça, mais ce match-là, cette finale-là, parce qu'on sait aussi que il va pas y en avoir beaucoup. Alors pour le coup, il y en a eu encore une après avec les Buccaneers, mais on se doute qu'on est plus sur la fin que sur le début. Mais ce match-là me marque parce que on sent que c'est pas encore le temps pour lui de laisser la place aux jeunes pousses notamment. Et on se disait MVP, c'était un peu le match qui devait être la passation de pouvoir. Et depuis, il en a regagné deux. Et en fait, c'est le souvenir que j'ai, c'est celui-là. C'est peut-être un peu biaisé par le fait que c'est récent, parce qu'il y en a plein d'autres. Mais ouais, si je dois en ressortir un, en dehors de ces Super Bowls, forcément, je sors ce match-là.
C'est bien parce qu'on a vraiment pas tous les mêmes, mais moi c'est pas un match en particulier, c'est une impression, c'est la saison 2007 quoi. C'est-à-dire que cette impression de facilité pendant 16 matchs où je pense que c'est aussi la première, c'est la première du site. C'est la première du site, donc c'est la première où je regarde vraiment tous les dimanches, tout le temps, etc. Et ça a l'air tellement facile quand il jouait contre Randy Moss cette année-là que c'est dingue quoi. Il y a un match contre les Dolphins notamment, je me demande s'ils leur en mettent pas une 40 ou cinquantaine, et que t'as l'impression que Brady a tout le temps du monde pour lancer, et que de temps en temps il envoie vers Randy Moss, il y a une réception à une main incroyable comme ça de Moss qui la prend quasiment sous le bras, enfin c'est vraiment assez délirant, et j'ai ce souvenir en fait de cette saison là alors après qui est ruiné par les Giants au Super Bowl, et du coup par extension ce Super Bowl est quasiment mon souvenir le plus vif de Brady. Malheureusement pour lui, c'est pas à son avantage, mais c'est vrai que du coup, c'est quelque chose de d'assez dingue. Donc moi, je sais pas, ouais, c'est cette saison 2007, parce que encore une fois, c'est peut-être la première du site, il y a peut-être des choses comme ça, mais après voilà, il y a tellement de souvenirs, il y en a plein d'autres. En vrac, qu'est-ce qui vous vient? Bon, la tuck rule.
Bah,
écoute... c'est indissociable.
Oui, oui, bah c'est forcément des choses qui derrière restent marquées dans l'histoire. Après, ça reste dans l'histoire parce que c'est lui, mais rien ne dit qu'avec l'évolution de la ligue, ce serait pas arrivé avec un autre quarterback. Mais c'est sûr que forcément, ça reste une image marquante, même si voilà, ça symbolise un petit peu le. Ça met plus en avant un côté brin de réussite que vraiment le talent pur, purement intrinsèque du bonhomme. Ouais.
Est-ce qu'il d'ailleurs il garde un côté sulfureux ou pas? Parce qu'à l'époque du Deflategate, il est quand même allé en justice. Ça a duré très longtemps. Je me rappelle qu'on faisait des articles, il y avait des appels, des machins. On avait des photos de lui en costard à la sortie du tribunal. Enfin, ça n'en finissait plus. L'histoire des ballons dégonflés. Il y a eu les histoires de vidéos des Patriots. Il y a eu les accusations des Rams de filmer avant les matchs. Enfin, il y a eu beaucoup de choses. Ça s'est beaucoup tassé quand même depuis 3-4 ans, j'ai l'impression. Mais est-ce que ça garde une petite odeur de soufre ou pas, Brady? Lucas, non.
Non, bah, alors je trouve que bon, il a aussi ces dernières années masterisé la communication des réseaux sociaux pour non pas se redorer une image, mais lisser le peu de choses qui fallait lisser entre guillemets. Le côté filmer les entraînements, c'est plutôt Belichick que Brady, forcément, même s'il est associé. Mais quand on pense à un personnage du côté des Patriots, on pense à Belichick dans ce côté-là. Et le côté Deflategate, j'ai l'impression que ça c'est un peu dégonflé, sans mauvais jeu de mots. Ça a fait beaucoup parce que c'était les Patriots, parce que ils gagnaient, mais j'ai l'impression que c'est pas grand-chose. Pendant le podcast, on parlait de Sean Payton qui s'était redoré une image. Il avait quand même des casseroles derrière lui du côté de le Booty Gate et tout ça. Et finalement, tout le monde a. Enfin, on en parle quasiment plus maintenant qu'il a pris. Son année sabbatique. Je pense que pour Brady, c'est et je veux dire, je compare pas ça, mais ce que je veux dire, c'est que si Sean Payton a réussi à faire lisser ce genre de choses là, dégonfler des ballons et aussi, enfin aussi grand l'avantage peut-être, hein, c'est pas ce que je discute, mais c'est quelque chose qu'on va vite oublier, ça restera comme une anecdote qu'on racontera, je pense.
Non, mais là clairement Lucas donc est dans le complot en train de nous dire que Sean Payton prend une année sabbatique, mais que c'est une suspension déguisée, c'est ça. Mais ça c'est un autre sujet pour une autre émission. Ouais. Non mais Raphaël, t'avais l'air d'accord, ça s'est dégonflé, si on peut se permettre le jeu de mots.
Ouais, totalement. Je trouve que ça s'est même ça s'est dégonflé encore plus depuis qu'il était parti finalement chez les Buccaneers. Il y a eu une vraie sorte de période de tension, crispation autour de Brady, des Patriots qui dominaient tellement que voilà, ça qui dominait en plus tellement de manière qui avait jamais été faite dans ce sport-là, qui avait une espèce d'aura de soupçons permanents de qui n'était pas à leur avantage. Et le fait que mine de rien, le fait qu'il ait recommencé à gagner après une petite période de creux, que derrière en plus il aille à Tampa Bay et qu'il gagne aussi, ça a tassé le tout. Et puis voilà, ça s'est lissé de manière assez logique au final, parce que bon, voilà, ça reste, il y a pas mort d'homme, hein, j'ai quand même envie de dire, malgré tout. Et puis bon, certaines des accusations ont été un peu cassées dans certains cas, et d'autres, bon, voilà. Donc non, moi je pense que c'est des choses qui vont vite disparaître, et dans 10-15 ans, on se souviendra que de ces faits d'armes sur le terrain, et le reste aura pas grande importance.
On remercie Astronomie pour son abonnement et Ultar, je vais y arriver, qui a offert 5 abonnements au chat. Pour les souvenirs, c'est vrai qu'il y a JD Fox qui rappelle sa tête sur l'interception de Malcolm Butler au Super Bowl contre les Seahawks. C'est vrai que l'image est quand même restée, c'était assez fort.
C'est vrai que ce match-là, notamment, il est incroyable. On n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que le match de Brady là, et en effet sa tête pour finir, ça reste un souvenir mémorable de sa carrière.
Oui, bah, on parlait, Raphaël était au Super Bowl du 28-3. Moi, j'étais à celui-là en plus, donc on a plutôt été vernis. On a tous assisté à une victoire de Brady au Super Bowl en dehors de Lucas. Greg, tu étais au celui des Rams, celui de Rams.
J'étais au deuxième des Rams, ouais.
Ok, donc on a trois victoires du Super Bowl sur sept de Brady qui peuvent témoigner. Non mais du coup, ouais, moi celui contre les Seahawks, en effet, c'est un sommet de jeu assez incroyable. Après, c'est ce que disait Greg, je crois, hein, c'est sur, on retient l'interception de Malcolm Butler fatalement parce que bah c'est là-dessus que ça se joue. Mais c'est vrai que le niveau du jeu et du match, c'est peut-être son Super Bowl le plus dingue.
Celui contre Philadelphie est pas mal aussi. Hein.
Ouais. En termes de performance individuelle, même, j'ai envie de dire que Philadelphie, c'est le meilleur.
Ouais. On n'est pas loin, en tout cas, ouais.
Ah oui, celui perdu, pardon, contre les Eagles, parce qu'ils en ont gagné.
Oui, pardon. Ouais, exactement. Le deuxième, en termes de performance individuelle, c'est même ça, pour moi, son plus gros chef d'œuvre au Super Bowl, parce que là, c'est lui qui porte totalement les Patriots de A à Z. Parce qu'à la limite, contre les Seahawks, il est très bon. Mais la défense des Patriots, c'est aussi très bonne. Et c'est un vrai affrontement complet entre deux très, très bonnes équipes. Alors que contre les Eagles, Brady ne peut rien faire de plus que ce qu'il a donné sur le deuxième affrontement. Quoi.
Oui, il y a Delta qui rappelle que l'écart entre son troisième et son quatrième titre, pour revenir au titre contre les Seahawks, lui donne une saveur particulière. Parce que c'est vrai qu'il gagne donc en 2002, 2004, 2005, hein, les années des Super Bowls. Et donc le suivant, c'est 2015, la victoire contre les Seahawks. Donc saison 2014-2015. Donc il y a 10 ans d'écart hein, quand même. C'est ça qui est dingue, c'est qu'on en voit 7, mais il y a quand même eu un trou de 10 ans au milieu en termes de victoire. Donc bon, quand tu as 22 ans de carrière, forcément, ça laisse plus d'opportunités. Mais il y a eu un creux à un moment où il n'était pas non plus parti pour en avoir 7. Quand il arrive à contre Seattle en 2015, il a quel âge du coup? C'était il y a 7 ans, donc il a 37 ans.
C'est ça. Oui, et puis il sort de deux défaites, dont une crève-cœur. Enfin, les deux sont crève-cœur, mais il y en a une encore plus que l'autre. Donc on se dit, c'est ça y est quoi.
Je sais même pas s'il y en a une plus crève-cœur que l'autre, sincèrement, parce que
les deux sont durs.
Les deux sont durs parce qu'il y a celle effectivement où du coup ils n'ont pas l'invincibilité sur toute la saison, mais cette année-là les Giants sont une vraie bonne équipe de foot, alors que le deuxième ils perdent franchement contre des Giants qui sortent de nulle part cette année-là, qui finissent à 9-7, qui ont probablement un des effectifs les moins forts du Super Bowl. Donc je sais pas si pas sûr qu'il y ait un crève-cœur plus que l'autre pour lui. Mais
donc, en tout cas, un des délires encore de sa carrière, c'est qu'il gagne donc 4 titres après 37 ans. C'est ça qui est quand même délirant, quoi. C'est-à-dire qu'il a une carrière de Hall of Famer rien qu'après ses 36 ans.
Ouais, c'est ça. Et il a même un titre de MVP en 2017, hein, parce que c'est vrai que ça passe un peu au second plan derrière sa saison 2017 stratosphérique, mais... se dire entre guillemets qu'il a que 3 titres de MVP au cours de sa carrière, ça peut même paraître injuste, mais c'est vrai qu'il y a des saisons où il a été tellement au-dessus, à un stade aussi élevé, enfin en tout cas aussi avancé de sa carrière, que c'en est bluffant. Bon, après il a poursuivi la malédiction du moment, parce qu'en 2017, on en parlait tout à l'heure, il perd face aux Eagles. Mais je rejoins, c'est sûr que il y en a très très peu qui arrivent à avoir un tel palmarès, même dans l'ère moderne, quel que soit le sport américain confondu, après 37 ans.
Je dirais même si on pousse le trait, il a presque même 3 carrières de Super Bowl, de Hall of Famer, parce qu'en fait, pendant laquelle il gagne rien, enfin, il gagne pas le Super Bowl pendant 10 ans, il a des titres de MVP, il a des finales jouées, enfin, je veux dire, c'est plus que beaucoup de quarterbacks, donc. Il a presque 3 carrières de Hall of Famer, en fait. C'est juste indécent, quoi.
Oui, c'est vrai que oui. Dans l'équipe, par exemple, il y a des gens qui veulent envoyer Philippe Rivers au Hall of Fame. On salue Raoul, par exemple. Est-ce que sur ses 10 ans sans titre, il n'est pas meilleur que Philippe Rivers?
Avec 2 titres de MVP, Philippe Rivers, faudrait que je regarde sa page Wikipédia, mais je crois pas qu'il ait 2 titres de MVP.
Beaucoup de choses, mais pas 2 titres de MVP. On a passé pas mal de grands moments de sa carrière en revue. On a parlé du premier titre contre les Rams, les deux suivants en manager. Est-ce que vous voyez des choses qu'on aurait pu oublier? C'est tellement dense, j'ai toujours peur d'en oublier. Il y a ces deux Super Bowl perdus contre les Giants, il y a le Super Bowl perdu contre cette équipe de Philadelphie qui est en fusion quand même. Merci à Fleurette 1972 pour son abonnement. Donc il y a beaucoup beaucoup de choses. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses qui vous viennent, Raphaël? Je te vois lever le doigt.
Je crois que Lucas l'avait fait avant, c'est pour ça que j'ai copié.
Non, mais alors c'est peut-être ce que tu allais dire, mais en fait on n'en parle pas parce que c'est très récent. Mais il y a quand même son Super Bowl l'année dernière. sa victoire l'année dernière, c'est quand même quelque chose qui va être hyper marquant dans sa carrière, parce que c'était le quarterback d'une équipe, c'était le quarterback d'un coach. Il y a toujours cette question, Bill Belichick, Tom Brady, la poule, l'œuf. Enfin, voilà, je vous refais pas tout le débat. Là, il s'en va. En plus, il s'en va de New England, pas forcément en très bons termes. Et il va dans une équipe, il a 43 ans, donc l'année dernière, et il gagne de nouveau, entouré d'une superbe équipe, hein. Il est encore une fois pas tout seul. On ne gagne jamais un Super Bowl tout seul quasiment, mais on n'en parle pas parce que c'était juste l'année dernière, mais je pense que ça sera quelque chose d'extrêmement marquant dans sa carrière, de se dire qu'il a réussi à gagner avec une autre équipe, dans une autre conférence, avec un autre environnement, un environnement totalement nouveau. Ça, c'est quand même très fort.
Bon, c'est vrai que ça, c'est assez délirant, Greg.
Ouais, non, juste une image un peu marquante quand même, malgré tout, qui reste dans la longue carrière de Brady, c'est cette fameuse passe d'armes avec Richard Sherman, où il se fait invectiver au début des années 2010, justement, lors d'une victoire des Seahawks face aux Pats, où Richard Sherman, déjà très en verve, lui rentre un petit peu dedans, lui faisant comprendre que... Bon, entre guillemets, il est déjà fini, quoi. Bon, je vais pas extrapoler les propos, mais en tout cas, il y avait un côté très trash talk là-dessus. Et puis le paradoxe, quelques mois plus tard, où on le voit serrer la main de Brady en s'avouant vaincu au Super Bowl, pour rejoindre un petit peu cette mystique, que ce soit un joueur comme Richard Sherman avec sa grande gueule légendaire, même si on sait que voilà, s'il y a des vérités à dire, il peut les dire. Voilà, c'est aussi ce contraste est aussi intéressant et important dans la carrière de Brady. Juste sur quelques chiffres, moi ce que je trouve assez délirant, c'est toujours la même chose. Je sais pas si t'allais en parler, Alain. Sur ce 22 années de carrière, il y a que deux saisons sans playoff pour les Pats, notamment. Enfin, en l'occurrence, c'est que deux années avec les Pats. C'est 2002, donc l'année post premier Super Bowl, où je crois qu'il s'écroule en fin de saison régulière. Je vais pas dire de bêtises, mais ça joue pas à grand chose. Et la saison 2008 qui joue pas. C'est ça qui est fou aussi, quoi.
Bah, déjà, jouer 10 fois le Super Bowl en 22 saisons.
Non, mais déjà, ça place déjà la prestation, on est d'accord. Mais si on va encore plus loin, on se dit, le gars, il va toujours en playoff, à part deux saisons, où concrètement, en 2002, ils avaient quand même la possibilité de le faire, et en 2008, où ils jouent pas. Certains me diront que les Pats avaient quand même la possibilité de le faire en 2008 aussi. Hein, ils finissent hors des playoffs avec une fiche de 11-5, je crois, ou un truc dans le genre, un truc délirant. Mais voilà, c'est pour encore plus situer la performance, c'est que voilà, pas de fiche négative dans sa carrière, et quasiment que des années playoffs, quand on sait que pour d'autres équipes, c'est la croix et la bannière pour s'y qualifier, quoi.
On va parler un petit peu de son impact historique. Juste avant ça, un mot, parce que ça revient beaucoup dans le chat. Les gens se demandent pourquoi il n'y a pas un mot pour les Patriots dans son mot de départ. C'est-à-dire que, c'est vrai, je l'ai dit, ça fait 5500 signes. Il remercie tout le monde, c'est-à-dire que son coach, sa femme, ses enfants, son agent, son préparateur physique, les employés des Buccaneers du premier au dernier, etc., etc. Pas un mot pour les Pats. C'est choquant, qu'il a fait ses adieux il y a deux ans.
Oui, bah c'est ce que j'allais dire. Moi, je me rappelle plus exactement le libellé de ce qui était noté, mais déjà en soi, son départ à Tampa il y a deux ans était une grosse page de l'histoire de la ligue, et je pense que son communiqué déjà avait quand même fait mention de ce qu'il avait pu traverser, les personnes qu'il pouvait remercier du côté de Foxborough. Je pense pas, pour aller plus loin, après je laisserai la parole, mais je pense pas qu'il y ait particulièrement, parce que c'était une hypothèse évoquée, de rancœur ou quoi que ce soit vis-à-vis des Pats. On sait que Robert Kraft sera éternellement amoureux de Tom Brady, a priori.
Ah bah, il a déjà publié un communiqué où il lui dit qu'il l'aime. Hein.
Oui, voilà. Donc voilà, il a que des bons souvenirs du côté de New England, je pense, globalement. Il y a peu de joueurs avec qui il a été en froid. La seule éventuellement interrogation, on va essayer encore une fois de faire le jeu de est-ce que c'était en phase avec Brady, Belichick, etc., etc. Je pense que Belichick, il s'en fout. Il était très content que Brady soit là et il reconnaît bien sûr le talent du bonhomme. Et Brady l'a remercié à l'époque. Il n'y a pas besoin. Ça aurait pu éventuellement être mentionné, je suis d'accord avec toi, vu la longueur du communiqué, mais c'est pas ce qui me choque en l'état.
Ah bah attends, il y a quelqu'un, excuse-moi, hein, qui disait sur le chat, attends, j'ai vu quelqu'un qui parlait de TDA, moi en effet, en faisant la trad, plus j'avançais, plus je me disais, il va finir avec moi, tu vois, genre, c'est très personnalisé, je voyais, à mes coachs, ok, à mes coéquipiers, ok, aux employés des Buccaneers, ok, j'attendais mon tour, tu vois, au bout d'un moment de la traduction. Mais non, malheureusement non. Est-ce que c'est significatif, Raphaël, qu'il n'ait pas signé mentionné?
Non, je crois pas. Il a eu le temps il y a deux ans de faire toute sa communication d'adieu et de remerciement aux Patriots. qui finalement avait aussi décidé de plus croire en lui à ce moment-là et de prendre deux chemins séparés. Et là, il part, ça fait 2 ans qu'il est à Tampa Bay, qu'il voit les employés de Tampa Bay tous les jours. C'est eux qui remercient parce qu'il s'arrête là. Et ça se trouve, dans une semaine, il fait une conférence à Boston, à Foxborough, pour dire merci, cette organisation aura toujours une place particulière chez moi. Enfin voilà, je trouve pas ça problématique à présent.
Il y a Sulti 12 qui fait un très bon commentaire sur le chat qui dit à deux doigts de remercier son boulanger quand même.
Sans but,
Lucas pas choqué non plus alors.
Alors pas choqué. Maintenant je lis un peu plus entre les lignes que vous quand même parce que certes il y a 2 ans il avait fait ses adieux à New England. Certes c'est pas forcément un communiqué pour dire au revoir à New England, mais je prends pas ça non plus comme un communiqué pour dire au revoir aux Buccaneers. C'est un communiqué pour dire je prends ma retraite sur une longue carrière, et la longue carrière pour le coup, New England fait partie de cette carrière. Alors l'instant présent c'est il quitte les Buccaneers, c'est normal que ça soit la plus grosse partie. Maintenant, comme le disait Alain si bien, il est si long le communiqué, il remercie tellement de gens que j'ai du mal à imaginer quelqu'un comme ça qui prend tellement d'attention à la communication involontairement oublier de remercier une équipe dans laquelle il a passé 20 ans. Je vois que Alain, tu es peut-être
d'accord. Ouais, moi
d'accord,
je suis d'accord avec toi. Ouais.
Pour moi, c'est volontaire.
Il sait ce qu'il oublie en tout cas. Il peut pas faire genre j'ai oublié les Patriots quoi.
Mais du coup, la question, c'est pourquoi il les oublie? Il les oublie par un peu rancune, ou il les oublie parce qu'il sait qu'il y a un second temps plus qu'un communiqué LinkedIn qui arrive?
Je comprends
tu vois
pas
ce que je veux
dire. Ouais, mais je comprends pas qu'il y ait pas juste, même si tu fais la conf de presse, qu'il y ait pas une ligne, tu vois. Dire,
oui,
pour les
ça,
Patriots qui ont accueilli tout le début de ma carrière et avec qui j'ai vécu une incroyable aventure, etc., je vous remercie, tu vois.
Je pense que ça dépend comment ça se finit dans quelques semaines, tu vois.
Bon, il y a beaucoup de gens qui supposent qu'ils pourraient re-signer pour une journée aux Patriots, évidemment, pour se retirer sous leur maillot. Encore une fois, là, on va attendre de voir, mais il y aura sûrement une conférence de presse. Parce que, on peut parler de la forme quand même. Je sais que Raphaël est le plus déçu d'entre nous.
Oui.
Bah, alors, c'est vrai. Le mec, il a pris, combien? Donc, 3 jours entre le moment où ça a fuité et le moment où il annonce. Tout ça pour pondre un communiqué Instagram avec des images sur fond noir, avec du texte blanc, comme ton oncle qui met des trucs sur Facebook, tu sais, avec marqué « Un vrai ami, c'est celui qui commentera sous cette image », tu sais, avec les images toutes faites. Non, mais voilà, c'est ce que tu disais en interne, c'est qu'il soigne d'habitude tellement bien ses vidéos, ses machins.
Bah ouais, effectivement, moi, je trouvais ça un peu étonnant, un peu… Bon, après, encore une fois, il va peut-être sortir autre chose, et voilà, mais bon, j'attendais un peu plus de fun par rapport à ce qu'il faisait ces derniers temps, en termes de montage, les lendemains de match, tout ça.
T'aurais voulu une bande dessinée où, tu sais, il lève les bras et il urine sur une photo de Bill Belichick ou un truc comme ça? C'est un truc pas polémique.
sans aller jusque là, mais tu vois, moi, juste un truc clair et concis, il prend une photo de ses 7 bagues, il y a écrit en gros bail, et voilà, quoi. Et avec le soleil couchant et salut, je m'en vais.
Il y a toujours son doc ESPN, non, qui est en cours, ou j'ai une bêtise?
C'est pas fini?
Ouais.
Je crois que c'était fini. Hein.
Non, parce qu'il me semblait avoir vu que justement, c'est en ayant vu fuiter des futurs épisodes que notamment les insiders auraient deviné qu'il arrêterait.
Ah, tu crois?
Je crois avoir vu ça. Hein. Je veux pas dire de bêtises encore une fois, mais
vu que c'est diffusé par ESPN, ça expliquerait que les journalistes d'ESPN l'aient vu.
Peut-être.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mais je ne suis pas dans le détail, men in the arena, pardon, mais je, peut-être qu'il y aura une mention aussi là-dedans. Encore une fois, moi je vous rejoins totalement, mais peut-être en effet que la communication n'est pas totalement complète et qu'il veut faire quelque chose peut-être que... un peu plus spécifique vis-à-vis des pads.
Il a été surpris.
Oui.
Mon avis, il a été surpris. Mais du coup, il maîtrise pas. C'est certainement ce qui l'a agacé aussi, enfin, de ce qu'on entend ou de ce qu'on peut lire. Il maîtrise pas comment cette sortie. Il est peut-être pris de court et peut-être qu'il a fait quelque chose. Alors à la va vite, je vais pas le dire à Alain parce que c'est lui qui a traduit les toutes les pages. Donc,
c'était long.
Je vais pas dire à la va vite, mais vous avez compris l'image.
Disons qu'il me doit une partie de FIFA. J'avais prévu d'aller jouer à FIFA en fin d'après-midi et tout, et il a ruiné tout ça. Mais en vrai, mettons, même s'il est pris de court, je suis d'accord avec Raphaël. Je trouve que t'as un truc un peu plus classe à faire. On a parlé en interne. Moi, je disais, quand Michael Jordan annonce son retour, il fait juste un communiqué où il dit I'm back. Bah ouais, tu fais une photo des set by, tu fais, c'était une grande aventure, merci. Et puis tu vois, genre, il y a trois mots suffit. Et là, en effet, ça fait vraiment post LinkedIn pour faire mousser tout le monde. Et puis alors moi, ce qui m'a tué en arrivant à la fin de la traduction, c'est le moment où il cite toutes les boîtes qu'il a créées pour faire la promo, quoi. Là, c'était full LinkedIn. J'étais là, ouais, putain, tout ça.
L'après carrière est lancée, hein. Écoute.
Ah ouais. Honnêtement, moi, c'est le couplet à la fin, genre, et surtout, je repars vers mes nouvelles aventures, acheter mon livre, acheter mon truc, acheter mon machin, et j'étais là, genre, oh la haine, putain, ouais, mets une photo de tes bagues et dis au revoir, c'est plus simple, quoi. Quitte à faire un autre communiqué une heure plus tard détaillé, tu vois. Mais la première annonce, le premier post Instagram ou Twitter qui a tellement d'importance maintenant, bah, tu sais, c'était Marshall Lynch qui avait mis une photo, vous savez, de ses chaussures accrochées sur un fil électrique, en disant qu'il raccrochait.
En plein Super Bowl.
C'était ouf. Brady avec toute l'équipe qu'il a autour de lui. Et bon, finalement, il a fini par faire un truc assez fadasse. Mais on retiendra pas ça, évidemment. À la fin, on aura tout oublié. À la fin, on aura oublié que Schefter l'a sorti 3 jours avant. On aura oublié la forme du communiqué. Honnêtement, tout ça, c'est du détail.
Schefter, juste c'est un détail, mais il a joué sa carrière là.
Mais alors, il paraît qu'il quitte ESPN en fait et qu'il va être embauché dans des trucs de paris en ligne et tout ça parce que ça se développe énormément aux États-Unis depuis un an. Vu que la NFL maintenant a des accords, ils ont autorisé les paris dans pas mal d'états et tout. Et apparemment, Schefter quitterait, il serait en fin de contrat avec ESPN de ce que j'ai vu passer. Donc,
il faisait all-in. C'est soit il partait sur un grand coup, soit il partait sur un bide total.
C'est ça. Apparemment, c'était ça.
Mais de toute façon, en vrai, juste une petite parenthèse, vas-y. Mais t'annonces pas la retraite de Brady comme ça. Moi, j'ai jamais cru au truc, le gars, il va passer pour un clown et tout machin. Qu'après, Brady change d'avis en voyant qu'en effet, il est court-circuité et tout, ça aurait pu arriver. Mais à aucun moment, tu peux te dire que les mecs, ils balancent une news pareille s'il n'y a pas un minimum de sources qui sont recoupées, quoi.
Écoute, par solidarité professionnelle, j'ai quand même un peu serré les fesses pour lui pendant 3 jours. Parce que après, tu te dis, franchement, t'es détruit, quoi, si le mec continue.
Ouais, bon, après, je sais pas.
Ouais, à l'ère de Twitter, les gens, ils auraient oublié dans 5 jours.
Et puis, c'est Schefter. C'est pas quelqu'un qui sortait de nulle part. Ce serait une grande défaite dans sa carrière si on prend un parallèle sportif. Mais comme dit Greg, il annonce pas ça comme ça. S'il annonce, c'est qu'il avait des infos. Peut-être que Brady aurait pu changer d'avis. Il se serait expliqué derrière. Ça aurait fait encore plus de clics et de tweets, je pense.
Ça se trouve, on sait pas, mais Schefter, il a tweeté dimanche quand Brady a commencé à écrire ce putain de communiqué interminable. Il avait lu le deuxième paragraphe. Le deuxième paragraphe, c'est celui où il dit j'arrête. Et il s'est dit bon, bah, c'est bon, je peux envoyer l'info. Dans 10 minutes, il balance aussi, il faut que je me dépêche, tu vois. Et en fait, il savait pas que Brady avait encore 14 000 signes à écrire et qu'il allait finir que ce matin après 2 nuits de sommeil éreintante et vraiment compliqué. La place de Tom Brady dans l'histoire, revenons un petit peu là-dessus. Quand je dis revenons là-dessus, évidemment.
Hall of Famer ou pas?
Alors voilà, bon, on va pas dire Hall of Famer. Moi, je l'ai déjà dit, je ne veux pas céder à la culture de l'instant, pas de procédure spéciale de Hall of Fame, il attend 5 ans comme tout le monde. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient le mettre plus vite?
Non. Il va y être, de toute façon. Ah, Greg,
j'hésite. Les traditions en NFL, c'est important, on le sait bien. Non, mais bon. Mais j'ai vu une mention j'ai vu passer un commentaire, je sais plus trop où, sur les réseaux qui disait, ouais, peut-être que si Big Ben avait su qu'il allait prendre sa retraite la même année que Brady, il aurait peut-être anticipé ou décalé un peu.
Et mais alors, tu vois, on parlait de communication. Je pensais pas que j'en reviendrais à regretter la vidéo de la prise d'otage de Ben Roethlisberger, où il lit son texte et tout ça, là. Et Ben Roethlisberger qui a réussi à ce que, enfin, ça avait fuité avant, tu me diras. J'allais dire à ce que ça fuite pas, mais on le savait déjà, lui.
Il était en pleurs lors de son dernier match de saison, l'avant-dernier match de saison régulière, alors qu'ils vous font les playoffs.
Ouais, et c'était moins subtil que Brady, c'est sûr.
Ouais, non, mais, et puis, tu sais, en plus, quand la vidéo de Roethlisberger est sortie et que je l'ai fait, l'article, je me suis dit, mais attends, il l'avait pas déjà dit? Tu vois, et parce qu'en fait, on le savait, tellement que bon. Donc, Hall of Famer, bon, ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de contestation pour Tom Brady. On est obligé de se faire quand même le petit débat. Est-ce qu'il y a un petit débat encore plus grand de l'histoire?
Bah non. Non, enfin, il n'y en a plus. Il est plus titré que n'importe quelle franchise. Il est, enfin, qu'est-ce que tu veux dire, quoi? Enfin, comment ne pas le mettre numéro un, en fait?
Il y a quelqu'un qui dit que ce sera le GOAT jusqu'au 8e titre de Joe Burrow en 2030. C'est JD Fox 88.
Peut-être, on sait jamais, mais.
Après, alors. Il a tout, il est incroyable, etc., etc. Je prends un petit exemple, c'est un sport que j'aime bien, mais quand Pete Sampras est parti avec 13 ou 14 grands chelems, à l'époque, on disait c'est incroyable, on ne sait pas si quelqu'un va le dépasser, et il y a deux mecs à 20 et un mec à 21 maintenant, hein, donc.
Oui, non, mais c'est pour ça, on ne peut jamais savoir.
Après, c'est pas le même sport, hein. Il y a un peu moins de Super Bowl que de tournoi du grand chelem quand même à prendre.
Et puis surtout, c'est un sport individuel. Là, Brady a mine de rien eu la chance. Je vais peut-être faire sauter au plafond beaucoup de personnes qui écoutent ça, mais il a eu la chance de tomber dans une franchise qui marchait aussi, d'avoir le coach, d'avoir les équipes, d'avoir la défense. Enfin, c'est aussi pour ça que c'est le GOAT. Mais c'est, je veux dire, il faut avoir un peu de réussite, quoi.
Il y a plein de comparaisons sur le chat qui sont intéressantes, mais est-ce que c'est outrageux, est-ce que c'est un outrage, pardon, de dire de Tom Brady qu'il est le plus grand de l'histoire, mais pas le plus talentueux? C'est ce que dit Antistar BZH sur le chat.
Encore une fois, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Son style de jeu, c'est peut-être pas celui qui aura plu au maximum de gens. Très clairement. Moi, si on me repose la question aujourd'hui, je veux dire, je le dis sans honte, alors je sais pas ce que Raph en pense, mais si on reprend la fameuse rivalité de l'époque, Tom Brady, Peyton Manning, moi, je prenais plus de kiff à avoir joué Peyton Manning, par exemple, quand il était au Colts, mais ça veut pas dire pour autant que Manning est bien meilleur que Brady, dans ce qui est, dans la trace qu'il a laissé dans l'histoire et dans le côté clutch, où Brady a démontré par A plus B qu'il y avait rien de comparable avec ce qu'il avait pu réaliser. Après, voilà, c'est des questions de sensibilité, de style de jeu purement et simplement. Mais je pense que oui, c'est difficilement contestable le fait que le mec est peut-être aujourd'hui. Enfin, tu vois, j'emploie le mot peut-être parce que des formations professionnelles, tu restes toujours un petit peu sur le qui-vive avec du conditionnel. Mais non, oui, on a eu affaire au meilleur joueur de l'histoire de ce sport, et je pense qu'il va falloir vraiment s'accrocher pour qu'il soit détrôné à ce niveau-là.
Après, tu vois, moi, ça me choque pas de dire que c'était le plus bosseur, le plus perfectionniste, le plus maniaque, le mieux préparé, etc., mais pas le plus talentueux. C'est vrai que Manning, dans sa manière d'être, alors au moins en saison régulière, c'est sûr. Après, les playoffs, c'était une chose différente. Mais il y a eu des mecs plus talentueux. Peut-être même qu'un Brett Favre à son pic était plus talentueux. Peut-être même qu'Aaron Rodgers à son pic en saison régulière était plus talentueux. Enfin, ça, c'est pas.
Après, qu'est-ce qu'on met aussi derrière le talent? C'est pareil. Est-ce que tu parles vraiment de la, on va dire, de la technicité du quarterback, tu t'arrêtes là, on va dire, pour définir le talent, et voilà, ou est-ce que l'impact leader mental entre aussi dans le talent, parce que tout le monde n'est pas un leader, tout le monde n'a pas ce talent pour conduire les hommes et les amener derrière soi, donc je sais pas jusqu'où on va là-dedans.
On parle beaucoup d'Aaron Rodgers, non?
Et puis c'est tout à son honneur aussi de dire qu'Evan est plus talentueux, mais c'est clairement celui qui a le plus gagné, c'est clairement celui qui a le plus tout, et donc peut-être que c'est parce qu'il y avait d'autres attraits qui étaient encore meilleurs, comme le disait Raph, de leadership, de mental, de capacité à se mettre all-in sur un objectif. C'est tout à son honneur pour moi.
J'ai l'impression qu'on n'est pas passé sur le débat Messi Ronaldo. Est-ce que vous voulez que je retitre le stream? Ça va nous rapporter encore plus de gens peut-être sur Twitch. Je pense que là ça va faire, je vais titrer FIFA FUT Ultimate Team Messi Ronaldo, et ça va faire venir plein de gens normalement. Bon, en tout cas, ouais, ça c'est un débat sans fin, mais ça méritait d'être posé. Il y a quand même une question de Jogactu qui est importante. Le plus important, moi j'ai une question. Est-ce que Raphaël est debout pendant ce live? Ça m'interpelle, dit-il.
Oui, je me suis mis à des nouvelles techniques start-upper sur les visios debout. Ça fait travailler l'équilibre et tout ça.
Je me permets de le dire qu'il enregistre les podcasts comme ça depuis quelques semaines quand même.
Voilà.
Et ça me perturbe autant que vous, hein.
Ah ouais, moi je fais pas la différence, comme il est cadré haut, tu vois, ça.
Oui, je bouffais pas la front de Cadreba quand même en étant debout, mais.
Je remontais un petit peu le chat. Après, il y avait d'autres débats, mais alors les comparaisons par contre, Oui, vas-y.
Ouais, juste, on parlait de la rivalité avec Manning, mais je trouve que sans que ça fasse la légende de Brady, ça participe au mythe autour de Brady, le fait qu'il ait eu une sorte de rival. Alors même si Brady affrontait pas directement Peyton Manning et que voilà, en foot américain, c'est la défense contre le quarterback, mais le fait d'être tombé en même temps que celui qui paraît pour beaucoup le quarterback le plus talentueux de l'histoire, au final, ça construit sa légende parce que c'est à quelque part, c'est le bosseur qui a surpassé le plus talentueux par. Donc, je trouve que ça participe au fait qu'il soit au-dessus du lot. Voilà, je trouve que ça participe à cette légende. C'est un petit bout de sa légende, mais cette rivalité, cet antagonisme qu'il y avait avec Peyton Manning, à quelque part, renforce l'aura Brady, en fait, je trouve.
Juste pour continuer là-dessus, ce qui est quand même fabuleux, c'est que le nom Manning aura toujours été quelque chose qui aura malgré tout poursuivi Brady pendant sa carrière, on va dire. Ouais, Peyton, dans le côté rivalité pour le MVP, notamment de saison régulière, enfin en tout cas la comparaison concernant les deux quarterbacks les plus en vue de leur génération, et Eli dans le côté voilà, némésis du Super Bowl, quoi, némésis presque inattendu du Super Bowl. Et c'est vrai que ouais, c'est un peu, c'est on peut le dire, c'est Superman avec sa kryptonite, quoi.
Après, on est dans la logique du sport, ce que tu disais, Raphaël, c'est-à-dire que il faut un bon méchant ou un bon adversaire pour être grand. Et tu vois, je disais Messi, Ronaldo, Federer, Nadal, Sampras, Agassi avant.
Il l'a souvent pas eu en plus dans sa division. Sa division a souvent été un peu. Il y a eu deux années bonnes chez les Jets, on va dire. Il avait pas vraiment de grand rival dans sa division. Donc, je trouve qu'avoir Brady, enfin avoir Manning en conférence, ça permettait aussi de pas avoir le côté bon, en fait la conférence était nulle, c'était le seul bon quarterback et voilà quoi, tu vois, ça.
Après, paradoxalement, ils se sont pas croisés si souvent, parce que je pense que c'est peut-être les Ravens qu'il a dû affronter le plus souvent en finale de conf.
En playoff, je crois que trois fois en playoff, il me semble, hein. Trois fois, pas plus.
Oh, un peu plus, non. Quatre. Parce qu'il y a une ou deux fois contre les Broncos, il y en a une en finale de conf où ils perdent l'année où les Colts ont.
Cinq, alors cinq, j'aurais dit cinq maximum.
Moi j'aurais dit cinq, je crois qu'il y a 3-2 pour
Manning. D'accord. Non, pour moi, il y a 3-2 pour Manning.
3-2 Manning? Ah bon. Bon, je recherche la stat en même temps, comme ça. Il y a quelqu'un qui dit, attendez, j'avais vu une bonne blague passer, mais je l'ai perdue, du coup, voilà, mince. Le mieux dans cette rivalité, c'est Manning numéro 1 de draft. Oui, c'est vrai, il y a ça aussi, il y a cette opposition-là chez eux. C'est qu'il y a Brady qui est le 199 et Manning qui est numéro 1. Sachez qu'ils ont une page Wikipédia dédiée à leur,
rivalité. Une chose est sûre, c'est que on parlait de légende. Dans la légende, pour avoir des grands héros, il faut des grands ennemis. Hein. Ça, c'est sûr. C'est ce genre de choses qui construisent la légende. Ça, c'est clair.
Alors, Brady avec les Patriots contre Manning avec les Colts, c'est 8-4 en faveur de Brady. Et avec 1, 2, 3 matchs de playoff dans celle-là. Et ensuite, avec les Brady Patriots, Manning Broncos, c'est 3-2 pour Brady avec 2 matchs en playoff. Donc, ça fait bien 5 matchs de playoff. Et il y en a 1, 2. Donc ça fait 2-1 pour Brady quand c'est Patriots Colts et 2 pour Manning quand c'est avec les Broncos. Donc en effet, ça fait bien 3-2 pour Manning. C'est ça.
C'est ça.
Parce qu'en fait les Broncos battent les Patriots pour aller au Super Bowl où ils se font éclater par les Seahawks et ils battent encore les Patriots en finale de conf pour aller au Super Bowl 2 ans plus tard. Où ils battent cette fois les Panthers avec une prestation de Manning qu'on qualifiera de mitigée dans ce match. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Tu sais, j'avais vraiment l'impression que ce jour-là, Manning, c'était le mec qu'on avait mis sur un cheval de course. On l'avait vraiment bien attaché. Et le cheval, il est parti très, très vite. Et Manning s'accrochait un peu comme il pouvait. Et il est arrivé le premier sur la ligne d'arrivée. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'était quand même une très, très belle rivalité. Et ça a été des heures assez incroyables. Oui, c'était ça que je voulais dire. Raphaël, tu disais, il ne l'avait pas dans sa division. Je crois qu'il l'avait un tout petit peu au début. Et puis, ils ont réalisé.
Oui, peut-être, ouais.
Après. Et donc, tu veux dire que tu n'appréciais pas quand il se tirait la bourre dans la division avec des Edge Emmanuel, Marc Sanchez, éventuellement des Chad Henne avec les Dolphins. Il y a eu des Cadors qui se sont attaqués à Tom Brady.
Ouais, disons que c'était pas les affrontements qui passionnaient le plus le fan neutre, on va dire, le spectateur neutre de NFL. On attendait plus quand il allait jouer les Ravens, les Steelers ou Manning que ces confrontations de division. Disons ça.
On a parlé notamment dans le footé de dimanche dernier des quarterbacks, jeunes quarterbacks qui vont dominer l'AFC pendant les années à venir. Il faut dire quand même qu'en effet, on a eu une période avec cette rivalité Brady Manning plus les Steelers qui se glissaient là, où ces trois équipes-là en fait monopolisaient complètement l'accès au Super Bowl hein, du côté de l'AFC. Enfin venu le jour où on célèbre la libération de la tyrannie Brady, dit Jazz Luck, sur le chat. C'est vrai qu'il y a des gens pour qui c'est quand même une libération, il faut dire ça aussi. Parce que Brady, on ne peut pas sortir ça de Tom Brady, c'est un mec qu'on adorait détester pour certains. Il y a des gens qui adoraient détester Tom Brady.
Oui, bah, de toute façon, comme on n'aime pas forcément quand ça tourne relativement peu, je pense que c'est vrai pour Brady, ça pourra peut-être être vrai dans les années à venir. Si par exemple les Chiefs vont souvent en finale de conférence à minima, bon voilà, je pense qu'on aime bien un petit peu le turnover. On a cet avantage en plus en NFL, je trouve. J'utilise le terme avantage pour ceux à qui ça convient, mais en effet depuis 2004 d'avoir systématiquement des champions différents. Cette année en plus, on a été vraiment à l'apogée de cet équilibre ambiant. Et oui, c'est vrai que Brady à ce niveau-là avait tendance à frustrer. Notamment les adversaires, bien entendu, parce que oui, on se dit qu'au final, bah, c'est toujours un petit peu la même chose et que, bah, on ressort de chaque saison un peu frustré parce que c'est toujours le même qui remporte la cérémonie de fin d'année, quoi. Mais après, oui, enfin, concrètement, enfin, je sais pas, oui, il y aura des mécontents, mais comme dans partout, si je peux te dire. Voilà. Après, au niveau du jeu, je pense que, voilà, ça restait quand même un joueur assez agréable à voir jouer malgré tout.
Après, est-ce qu'il part pas aussi au bon moment, entre guillemets, Raphaël et Lucas, parce qu'il y a justement toute cette nouvelle génération qui a éclos. Josh Allen fait une super fin de saison. Patrick Mahomes est là depuis 3 saisons. Enfin, on a une super génération. C'est presque un symbole que Joe Burrow atteigne le Super Bowl cette année aussi, 2 semaines avant que Brady. Enfin, 2 semaines. Il jouera 2 semaines après que Brady annonce sa retraite. Du coup, c'est voilà, on va pas s'ennuyer non plus, quoi.
Lucas. Non, mais bon, de toute façon, comme le disait Greg, la NFL est faite d'une telle façon que on ne se serait pas ennuyé quoi qu'il arrive. Et puis s'il était parti il y a 5, 6, 7 ans, où on aurait trouvé d'autres moyens de se dire que NFL était entre de bonnes mains. Là, pour le coup, c'est vrai qu'il y a Mahomes, il y a Josh Allen, il y a Joe Burrow, et on va se concentrer sur eux. Et puis peut-être d'autres qui vont arriver ou qui vont éclore, Trevor Lawrence ou Zach Wilson. Non, je rigole. Mais c'est vrai que quoi qu'il arrive, en partant, il laisse une place vide qu'on va chercher maintenant. On va chercher des gens, des quarterbacks, des équipes pour remplacer la place qu'il prenait. Et pour le coup, c'est vrai que c'est un bon moment. Après, peu importe, moi, pour moi, peu importe l'année où on aurait cherché et on aurait trouvé des questionnements. Parce que là, pour le coup, c'est Joe Burrow, c'est un questionnement. C'est très bien le Super Bowl cette année, mais on attendra les années futures.
Je suis un peu déçu, par contre, vous citez Joe Burrow, mais je suis un peu déçu qu'on ne nomme pas Matthew Stafford quand même, qui a pas encore 37 ans du coup.
C'est vrai.
Donc, qui a encore une longue carrière devant lui, donc qui devient de facto le meilleur quarterback de moins de 45 ans.
tout vient pour Russell Wilson, mais non, mais en plus, je croyais que t'allais dire Tua Tagovailoa quand je croyais que t'allais faire une blague quand t'as dit vous oubliez dans les jeunes.
Non.
Raphaël, tu levais le doigt.
Oui, ben messieurs, juste pour vous dire que je devais y aller.
Ah oui, bah écoute, merci beaucoup, Raphaël.
Oui, et oui, ben merci à vous. Voilà, que dire à part bravo et merci Tom Brady, j'ai envie de dire pour finir pour ma part.
C'est vrai. Ouais, on a dit que ce serait en interne, en lançant, on avait dit que ce serait un live un peu fluide. On va voir combien de temps on fait et on va peut-être avoir d'autres membres de la rédaction au fur et à mesure selon les disponibilités de chacun. Donc merci beaucoup, Raphaël. Tu peux aller t'asseoir du coup.
Eh ben oui, c'est ça, je vais enfin pouvoir m'asseoir, c'est cool.
Merci beaucoup Raphaël, bonne soirée.
Ciao les gars.
Raphaël a une crampe. Ah, et Herbert, c'est vrai, on a oublié Herbert. Et c'est Raoul évidemment qui nous dit ça sur le chat, on dit bonjour à Raoul. JD Fox 88 qui disait Raphaël a une crampe. Raoul, est-ce que tu veux nous rejoindre? T'as le lien dans le chat de la rédaction si tu veux nous rejoindre. Tu peux venir nous donner un petit mot sur Tom Brady. On va finir nous ce qu'on avait prévu, messieurs. Juste pour finir quand même, pour ouvrir sur l'avenir, on a parlé un petit peu de l'avenir de la ligue avec ces jeunes quarterbacks, l'avenir des Buccaneers, parce que mine de rien, il y a une équipe qui reste derrière. Alors autant la Ligue, bon, elle se remet toujours. Hein. Manning, il part, Montana, il part, on s'en remet. Les équipes, quand un quarterback comme ça part, c'est un peu différent quand même. Hein. Il faut un peu plus de temps pour que tout le monde se remette d'aplomb. Comment on fait là du côté de Tampa? Et surtout, est-ce que ça va être, alors là, on est dans la boule de cristal, mais est-ce que ça va être un exode massif? Parce que là, on peut se dire, Arians, il a peut-être pas signé pour ça, je crois qu'il avait des problèmes de santé et tout ça à une époque. Rob Gronkowski, tous les joueurs qui vont être free agent parce qu'ils ont re-signé pour essayer de garder tout le monde cette année, mais il peut y avoir du mouvement. Comment ils font?
Bah, c'est ça la principale question. Alors, concernant le coaching staff, je m'inquiéterais pas autant que ça. Je sais pas si forcément la décision de Brady conditionne l'avenir de Bruce Arians, même si en effet on sait qu'il a eu des problèmes de santé. Mais a priori, bon, je pense qu'il prépare aussi un petit peu l'avenir, que ce soit avec Lev Twitch ou avec Todd Bowles au sein de son coaching staff pour les années à venir. Donc, je pense qu'il y aura quand même une certaine continuité là-dessus du côté de la Floride. Après, oui, tu l'as dit, d'un point de vue joueur, c'est pas tout à fait la même chose quand tu essaies de convaincre des joueurs de re-signer pour plusieurs années en sachant que tu vas jouer avec Tom Brady ou avec un autre quarterback. Donc, voilà, pour vendre du glamour et vraiment un projet, ne serait-ce qu'à court ou moyen terme, pour éventuellement renouer avec un Super Bowl, ou en tout cas avec les joutes du mois de janvier, ça va peut-être être un petit peu compliqué. Donc, va falloir voir comment le front office des Bucks gère ça pendant l'intersaison. Mais oui, ça va quand même être une petite épine du pied. Ça va être une petite épine sous le pied de Tampa pendant les négociations avec d'autres franchises qui pourraient avoir un attrait un peu plus important.
Avant de laisser Lucas répondre, je remercie Marie P1212, Benfi Chounet et Belgarat 900 pour leurs abonnements. Deuxième mois pour Belgarat. Lucas, comment on fait à Tampa?
On est bien embêté, en tout cas, pour rester poli. Et je vais revenir sur ce que disait Greg. Je suis pas tout à fait sûr que le coaching ait une continuité. Alors, on est dans les supputations, bien entendu. On verra. Je suis pas sûr que Bruce Arians soit complètement ravi par le fait de repartir sur une reconstruction. Je sais pas quel âge il a, mais il est plus tout à fait jeune. Vous parliez en plus de problèmes de santé, ce genre de choses qui peuvent influer sur des décisions. Il y a des coordinateurs qui sont qui ont de la hype, comme le disait avec Leftwich, soit qui sont comme Todd Bowles, avec l'envie peut-être de retenter quelque chose, d'avoir une deuxième chance en tant que head coach, surtout qu'il lui aussi a de la hype depuis 2 ans, notamment avec le titre l'année dernière. Donc, je suis pas sûr que ce coaching staff-là reste complètement en place pour l'année prochaine. On imagine. Et ensuite, oui, il y a ces joueurs-là, comme disait Greg, et je vais pas continuer, mais oui, le quarterback, c'est une grande question. Et du coup, c'est une question pour nous, comme pour les joueurs qui vont être autour ou qui pourraient partir.
Ouais, ça va être une intersaison passionnante parce que franchement, c'est pas une des équipes qu'on imaginait en chantier. Après, je vois difficilement rien se partir maintenant parce qu'en plus, tout ce qui est entretien d'embauche, etc. Ou alors, oui, c'est promotion de Byron Leftwich directement vu qu'il est hyper demandé, quoi.
Non, ça m'étonnerait pas. Après, moi, je précise juste mon propos par rapport à ce qu'a dit Lucas. Arians est pas arrivé de par la signature de Brady. C'est en ce sens-là que je disais ça. Après, on est d'accord que oui, c'est peut-être pas forcément un projet de vouloir reconstruire, mais on sait pas dans quelle optique est forcément Bruce Arians. On a vu qu'il l'a déjà fait avec les Cardinals à l'époque. Alors, c'est sûr que c'est pas exactement la même situation. On est d'accord que c'est pas exactement la même situation. Clairement, du côté de Tampa, il y a quand même un petit peu de matos à disposition. En attaque, t'as trouvé Mike Evans, une ligne offensive, même s'il y a quelques joueurs qui vont être free agent, mais qui est pas déconnante. Et puis en défense, il y a toujours quelques stars comme Barrett, White ou David. Donc, il repart pas d'une feuille blanche. Mais c'est sûr qu'encore une fois, il va y avoir un renouvellement très important. On sait qu'ils ont drafté assez massivement l'année dernière dans cette optique-là aussi. Donc voilà, il part pas, je répète, d'une feuille blanche, mais je pense pas que ça va tout redistribuer d'un point de vue coaching.
Greg, qu'est-ce que tu penses de Kyle Trask? On demande sur le chat, Geeky Twig demande.
C'était un bon quarterback du côté de Florida, qui a eu d'ailleurs une trajectoire un peu similaire à la Joe Burrow, si je peux parler ainsi. C'est-à-dire que vraiment, dans sa dernière année, notamment du côté de Florida, il a vraiment tout explosé. Chez les Gators, ça a été un peu plus compliqué en fin de saison, mais c'est vraiment un projet assez séduisant. C'est un joueur qui est capable également d'apporter de la verticalité, donc dans le système de Bruce Arians, ça peut être quelque chose d'intéressant. Après, est-ce que dès 2022, il sera pleinement performant, ou est-ce que c'est encore un projet en développement qui sera nécessaire de mettre en concurrence avec un quarterback vétéran l'année prochaine? C'est ce qui me paraîtrait être la décision la plus, je dirais même pas logique, mais sans doute celle qui me paraîtrait la plus fiable dans ce que peuvent faire potentiellement les Bucks. Mais en tout cas, il semble qu'il l'avait récupéré au deuxième tour, hein, je peux dire bêtise, je crois que c'est une fin de deuxième tour Caltrask.
Deux ou trois, ouais.
Donc il y a quand même un projet derrière, très clairement. Donc voilà, où il est déjà mature et comme Mahomes, il a fait une année dans l'ombre et puis il est prêt à reprendre les rênes, mais oui, je pense que ce n'est pas en tout cas déconnant de tester l'année prochaine avec un QB vétéran. Ouais.
On va dire un petit mot, on va accueillir après des membres de l'équipe. J'espère qu'on n'entend pas déjà le son dans le retour, parce que moi je l'ai dans le retour, je ne sais pas s'il est à l'antenne. Est-ce qu'on l'entend à l'antenne ou est-ce qu'on l'entend chez nous, Camille? Tu peux me dire? Mathieu sera à l'antenne. On finira après sur autre chose. On va passer au témoignage de l'équipe. On entend tout. Donc on va passer au témoignage et on a des membres de l'équipe qui voulaient aussi témoigner. On essaye de faire un hommage un peu global. Encore une fois, il est pas mort. Hein, je vous rappelle, si vous prenez en cours de route, non. Brady n'est pas mort. Il est à la retraite. Il y a Serre Lapinou qui dit Alain Passion Streaming. C'est vrai que là, vous avez vu maintenant sur Twitch, je suis chez moi. Hein, je fais circuler. Il y a des gens qui viennent. Et encore, vous n'avez pas vu ce qui se prépare pour le Super Bowl. Mathieu Pasquier est avec nous. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Mathieu, est-ce que tu sais combien il y a dans la valise? Non, je suis trop vieux.
Eh ben, probablement, il y a un Super Bowl pour les Bengals dans la valise.
Ah oui, alors voilà, bon, il faut vous dire, hein, Mathieu est supporter des Bengals et des 49ers. Alors, il a frôlé l'extase totale, il a pris une demi-extase. C'est déjà pas mal.
Ça a été une nuit difficile, ouais.
Bon, à demi bonne, c'est déjà ça.
Ah bah, en même temps, je vais pas non plus être déçu que les Niners soient allés en finale de conférence. Hein.
Voilà.
Bon, après, ouais, c'est toujours dommage de rater si près du but, mais bon.
Et puis des Super Bowl Niners Bengals, c'est bon, on a vu assez.
C'est bon. Alors, on n'est pas là pour parler des Bengals et des Niners, malheureusement, messieurs. On est là parce que Mathieu, que vous avez peut-être reconnu du coup comme notre expert en maillot du site, il nous a servi quelques excellents articles sur les maillots, est venu donc nous apporter un témoignage. On va faire un petit tour de la rédaction et de ceux qui veulent témoigner encore une fois sur Tom Brady, et on va faire une question simple pour chacun. Mathieu, qu'est-ce que toi tu retiens de la carrière de Tom Brady?
Eh ben moi, je t'avoue, je vais beaucoup me souvenir du début, notamment le premier contre les Rams, parce que c'est quand même, à l'époque, les Rams, c'est la meilleure attaque quasiment de l'histoire. Donc, ces petits Patriots que personne ne voyait faire quoi que ce soit, qui s'imposent contre les ultra favoris, avec le drive à la Joe Montana pour amener le kicker à distance de coup de pied, c'est quand même ça, le premier Super Bowl est exceptionnel. Pendant longtemps, le Carolina Panthers contre les Patriots avec Jake Delhomme, Mushin Muhammad et Steve Smith a été mon Super Bowl favori. Donc je me souviens du début. Et puis j'ai une grande admiration pour ce qu'il a fait à 43 et 44 ans, à laisser ses valises derrière lui, à se lancer le défi de repartir dans une nouvelle équipe, une nouvelle conférence, un nouveau coach, un nouveau système. Alors, il débarque pas non plus dans une équipe en difficulté, hein. Visiblement, ils attendaient que lui, mais de faire ce qu'il a fait à Tampa Bay, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Puis derrière, là, la saison, il sera probablement pas MVP, mais il fait une saison historique à 44
après, ans. Après, tu dis laisser ses valises, je pense que niveau budget, il n'avait pas forcément besoin de vendre à Boston pour acheter à Tampa derrière. Hein. Je pense qu'il est au niveau…
Ouais, mais il n'avait plus rien à prouver après ce qu'il a fait avec les Patriots. Honnêtement, il aurait pu partir dans le soleil couchant et puis laisser tout ça derrière lui et se lancer le défi de réapprendre un playbook à un coordinateur offensif, à un coach… Pas facile.
Bon, donc le souvenir principal que toi que tu gardes, c'est quoi? C'est celui contre les Rams?
Le début, parce que c'est improbable, il est personne, il est sixième tour du fin fond de la draft, personne ne l'attend, il rentre sur le terrain sur un énorme concours de circonstances. Donc le début, c'est vrai que c'est exceptionnel. Et puis le fait ensuite de faire les Super Bowls contre les Eagles et contre les Panthers font qu'il passe d'un gars qui a gagné le Super Bowl un peu par hasard à quelqu'un qui pèse carrément en NFL. Et puis sur la fin, parce que sur la fin, moi je trouve personnellement que d'aller se lancer le défi, entre guillemets, de tout recommencer à son âge alors qu'il avait plus besoin de se lancer le défi, je suis admiratif.
Merci beaucoup Mathieu.
Bah, merci à vous.
Ouday, bonne chance pour le Super Bowl, Mathieu. Merci beaucoup. On va pas tarder à finir tranquillement ce live. On attendait éventuellement Mehdi Julien. Je lui ai lancé une invitation sur le chat de la rédaction, mais il n'a pas l'air disponible. On voulait avoir le supporter numéro
1 pour le bras de la rédaction.
Lucas, dis-moi.
Petite breaking news, puisque tu parles des supporters des Patriots.
Ah oui.
Tom Brady vient de remercier les supporters des Patriots. On se posait la question, c'est pour ça que je me permets de le dire. Il vient de le faire sur un post Twitter ou Instagram en récupérant le communiqué de Robert Kraft et en disant merci aux Patriots et aux supporters. Donc voilà, c'est fait. Je sais pas si c'est pour se rattraper de pas l'avoir fait, mais en tout cas, il l'a fait.
Oui, c'est vrai. Tweet en effet où il dit Thank you, Patriots Nation. I'm beyond grateful. Love you all. Voilà. C'est bon. On verra s'il y en a plus derrière. On va tranquillement se diriger vers la fin de cette émission. Greg va pas tarder à filer aussi, mais je voulais l'avoir pour cette dernière question. On va terminer par ça, messieurs. Et maintenant pour Tom Brady. Parce que, alors je vous avoue, j'aurais bien aimé avoir Raphaël parce que c'est lui qui a suggéré sur le chat de la rédaction qu'il allait peut-être devenir tueur en série et que c'est pour ça qu'il ne fallait pas le mettre tout de suite au Hall of Fame parce qu'il fallait pouvoir se retourner. Plus sérieusement, est-ce qu'on n'entendra plus jamais parler de lui ?
J'ai 2-3 doutes. Ouais. Mais qui est cet homme au loin ?
Non mais, est-ce que il devient... bon, je pense qu'on peut exclure coach, on est tous d'accord là-dessus.
Mmh. Oui. Bon. Même commentateur, je sais. Pourtant, c'est un très bon talker. Je sais pas forcément si être analyste ou. Oui.
Oui, oui. Il parle bien.
Oui.
Oui.
Oui, oui, quand oui. même. Oui, oui, quand même. Mais je sais pas si analyste, je pense, c'est ce qui lui plairait en l'occurrence, mais.
Ouais, mais c'est pour ça que je vous dis, est-ce qu'on en entendra parler? C'était vraiment au sens. Football américain, dimanche, plateau, match ou quelque chose comme ça. En fait, j'ai l'impression que c'est un mec qui va aller faire ses business. Il l'a déjà annoncé dans son post LinkedIn de départ.
Mmh. Oui, mais ça va être... Vas-y, Lucas, pardon. Vas-y.
Non, mais je me faisais la même réflexion que toi. Oui, je suis pas sûr qu'on le voit, en effet, en tant qu'analyste, même si, à mon avis, ça serait pas mal. Après, il y a plein de choses qui peuvent se créer. Regardez Peyton Manning et Eli Manning, on les imaginait pas forcément comme ils le faisaient le lundi soir sur les Monday Night Football. Et pourtant, pour ma part, en tout cas, je trouve ça très bien. Avec leur nom, ils attirent des personnes pour faire à la fois de l'analyse tactique qui est toujours très intéressante et puis à la fois quelque chose d'un peu plus léger. Je trouve ça très drôle, très sympa. C'est quelque chose qu'ils ont quasiment créé. Ça n'existait pas trop, notamment avec des grands noms. Donc c'est vrai que Tom Brady pourrait créer quelque chose. Il a le nom, en tout cas, pour faire à peu près ce qu'il veut.
Ouais, si Gronk prend sa retraite, ils peuvent très bien faire une émission thématique. Je te rejoins l'année prochaine, Brady to Gronk.
C'est vrai. C'est vrai qu'ils avaient...
Pose le nom, déjà.
Ils avaient déjà des pastilles hein, sur les réseaux sociaux des Buccaneers cette année où ils animaient, ils étaient en Bermuda dans des chaises longues et ils faisaient des séquences toutes les semaines. Donc, ça peut être possible. C'est marrant.
Il a un podcast aussi, hein, toutes les semaines, Tom Brady.
Ouais. Après, je sais pas, je lui trouve pas le degré d'aisance d'un Peyton Manning, quoi, médiatiquement.
Il est peut-être moins foufou, je pense que, enfin, foufou dans le sens où Manning, je trouve, a un côté un peu plus décalé qu'est assumé. Oui. Si on prend la comparaison, après, moi je te parle vraiment juste du côté analyste, spécialiste du foot. Je pense que Brady ferait pas du tout tâche dans un panel. Mais oui, après pour le côté décalé, surtout encore une fois, enfin je reprends cet exemple-là, mais tu le mets avec un Gronk qui est capable de faire tout et n'importe quoi. Je pense que voilà, les deux peuvent se payer de bonnes tranches. Voilà, de manière assez ludique. Après, je pense qu'il y a des médias qui vont y penser très clairement. Après pour le côté, il peut rester sur le côté purement performance sportive en effet avec TB12, être plus peut-être un ambassadeur au sein des Pats ou ce genre de choses. Enfin, je sais pas, je sais pas exactement quel débouché peut advenir, mais encore une fois, on parle d'un joueur qui a 44 ans, qui franchement entre son salaire et celui de sa femme peut se permettre limite de pas travailler jusqu'à la fin de ses jours. Donc, franchement, je pense qu'il y aura des possibilités. En effet, ce serait toujours sympa de le revoir dans les médias aujourd'hui. Mais oui, je pense qu'il va essentiellement se focaliser sur tout ce qui est TB12 et tout ce qui est satellite, on dira dans son travail marketing.
Dans son post Instagram du coup d'annonce, il y avait aussi un truc qui s'appelait autographe.io dont il faisait la promo et donc je suis sur le site. Visiblement, ils vendent des NFT et des signatures et ouais, il y a des trucs un peu particuliers, ouais, des statues de Wayne Gretzky, c'est une statue en diamant. Non. Ah, en saphir, à la vache. Ah ouais. Donc oui, donc il trouve des business, visiblement.
Je pense que. À pas avoir de mal à trouver des business. Hein.
Proprio demande Roméo dans la street.
J'y crois pas. Pour prendre l'exemple Jordan. Je sais pas. Tant qu'on parle de goût du sport. Je sais pas. Franchement, peut-être, hein. Encore une fois, il y a rien d'impossible, mais je te dis, enfin, je sais pas. En plus, c'est un, non, j'ai dit une bêtise, mais, j'ai essayé de voir éventuellement dans quelle équipe il pourrait être intéressé, parce qu'on sait que Jordan, c'était plus par rapport à Charlotte, la Caroline, où il avait joué notamment.
Tu crois pas que Robert Kraft est prêt à lui faire une place tout de suite?
Peut-être, mais c'est pour ça que je prenais l'exemple d'ambassadeur des Pats. Mais oui, il peut avoir un rôle dans l'organigramme, très clairement. Après, voilà, il paraît qu'il a joué à Michigan. S'il veut un challenge ultime, il intègre le front office des Lions.
Ah ouais, là, c'est...
Mais lui
est californien de base, en plus.
Oui, en plus, c'est vrai. Mais en tant qu'acteur et preneur de décision, si je peux parler ainsi, je sais pas si c'est quelque chose qui rechercherait totalement.
Après, j'ai du mal à le voir, un truc comme ça où il pourrait pas avoir trop assez de contrôle, en fait. Je pense que c'est aussi pour ça que Manning, pour l'instant, trouve pas. Enfin, c'est des mecs qui sont quand même des contrôles freaks complets, quoi. Donc, faudrait trouver un truc vraiment particulier. Et je termine avec ça, avec des suggestions du chat. Beaucoup qui revient, syndicat des joueurs. Bon. Il s'est énervé une fois en 22 ans sur les propriétaires. Est-ce qu'on en fait déjà le leader de...
Non, par contre, vous... non, ce qui peut être bien, en tout cas, c'est que je le répète, ça reste un joueur assez intelligent. Donc, il peut apporter également son expertise sur pas mal de sujets. Je pense qu'en tout cas, c'est quelqu'un, c'est une personne envers qui on prêtera une oreille pour savoir un petit peu ce qu'il pense de tel changement ou de tel changement. Donc, encore une fois, consultant dans ce domaine-là, ça peut pas être quelque chose d'inintéressant à mon sens. Après, voilà, je te répète, franchement, il y a des pistes, mais franchement, maintenant qu'il est en mode un peu YOLO et qu'il se dit, bah, écoute, j'étais parfait en tant que joueur, je vois pas pourquoi j'irais prendre un risque à tester autre chose, il y a rien qui l'oblige concrètement aujourd'hui.
Bah, pareil, politicien, moi, il y a trop de gens qui l'aimeraient pas, c'est trop clivant.
Je sais pas, vu
comment il était susceptible quand il était joueur, tu crois qu'il veut s'imposer la politique à l'heure des réseaux sociaux?
Non, je pense pas, mais pourquoi pas? Moi, il y a plus rien qui m'étonne, hein, depuis que j'ai vu Schwarzenegger, gouverneur de Californie. Moi, je me dis pourquoi pas, hein. Il peut être maire d'une ville ou, enfin, tu vois, sans forcément avoir une étiquette, sans forcément prétendre à la Maison Blanche, hein.
C'est vrai qu'on pose la question parce que c'est les States, hein. Ça, c'est sûr et certain. Non, mais t'imagines après s'il était élu. Ouais, tous ceux qui ont pas cru en moi, hein, tous ceux qui me détestaient, tous les haters.
Oui, s'il est
élu. Vous voyez ce qu'on a fait. Ah, putain, ce serait insupportable, au secours. Et donc, la dernière hypothèse, donc, tueur en série, tout ça, bon, a priori, non. Hein. Mais avec l'ennui, on sait jamais. Hein. C'est des gens quand même qui ont des... Tu vois, pour être monomaniaque comme ça pendant 22 ans sur la même chose à fond et tout, tu vois, c'est une obsession. Quand après, t'es perdu, tu sais pas. Hein.
Ceci étant dit, ouais, il va avoir du temps à tuer quand même, parce que même s'il a beaucoup de choses pour s'occuper, là, il y a une grosse partie de sa journée qui devient libre.
Mais... donc... Et j'ai vu golfeur dans les noms. Moi, je pense que Brady au golf, tranquille. Hein.
Non, mais tu vois, mais en vrai, je plaisante, mais c'est vrai que ça doit être... Tu dois te sentir... happé dans un vide quand même assez intersidéral, quoi. Quand tu prends ta retraite après 22 ans de NFL, ça doit être dur, hein.
C'est pour ça que c'est si dur à prendre la décision, hein.
Ah ouais,
pour de nombreuses personnes, c'est extrêmement difficile de passer le pas, quoi.
Ah ouais, non, tu sors puis c'est un rythme, quoi. T'es programmé pour ça, tu vis comme ça rythme tes journées. On choisit aussi pour toi, parce que je dis c'est des contrôles fric, mais en même temps, ils ont un planning qui est très cadré et qui les cadre eux dans leur obsession de la performance. Et après, ouais, ça doit être terrible, quoi, de faire ce saut-là. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a mis un peu de temps à confirmer et tout ça. Bon. La retraite des sportifs est une petite mort, dit Monsieur Basketix. Camille, tu peux donc nous remettre le visuel de début d'émission. Voilà, merci beaucoup. La petite mort de Tom Brady, donc 2000-2022, Tom Brady. Et on va donc terminer là-dessus, messieurs. Ce petit live impromptu, la retraite tout court, dit Cerber sur le chat, est une petite mort. Ouais, mais disons que pour la plupart d'entre nous, ça arrive quand même beaucoup plus tard et beaucoup plus proche de la mort réelle que pour Tom Brady. Donc, c'est malheureux, mais j'aimerais bien à 44 piges, hein, quand même. Ça laisse du temps. Il a 40 ans de retraite à minima devant lui, quand même. C'est pas mal.
Bon, on espère pour lui, ouais.
C'est pas mal. Merci beaucoup, en tout cas, à tous ceux qui ont suivi ce live. Merci. Ah, ou une pub. Ah non, une pub pour Comme J'aime. Oui, pardon, je croyais qu'il y avait une pub qui s'était lancée sur le chat, mais c'est bon, tout va bien. Donc, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis dans ce live impromptu, disponible évidemment en replay sur la chaîne YouTube et en podcast. Énorme merci à Grégory, à Lucas, à Raphaël, à Mathieu de s'être rendu disponible très, très rapidement et très, très au dernier moment. C'était très sympa, messieurs. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et merci.
Rendez-vous demain pour nous.
Et rendez-vous demain, ouais, du coup, live demain pour Lucas et Raphaël. Live après-demain pour Lucas encore et Tristan. Si vous aimez Lucas, abonnez-vous à cette chaîne. C'est tout ce que j'ai à dire.
Abonnez-vous à cette chaîne. Quand même.
Bah, regardez ça. Il a des cheveux magnifiques. Il a des petites lunettes comme ça et tout. La barbe bien.
Tolérez-le au moins.
Bah ouais, non.
Ouais, voilà. Je ferai, voilà, je tue peut-être pas ça.
Quand même. Donc en plus, et en plus, après, il s'envole pour Los Angeles. T'as une quinzaine chargée quand même, hein.
Oui, bah on va pas se plaindre hein, quand même.
Bon, c'est pas mal. Merci beaucoup donc de nous avoir suivis. Vous retrouvez Lucas. Demain, c'est 19h hein, votre live.
Exactement.
C'est 19h. Donc le live ici demain, bah, regardez, il est 19h06. Donc dans 24h, vous serez à nouveau ici avec Lucas. Voilà, c'est le rendez-vous. Il y a quelqu'un qui dit... Je sais pas si tu vas être content, Lucas. Il y a Dadegan dans le chat qui dit « Lucas égale Alain avant 10 ans de TDA ». Ça veut dire dans 10 ans, t'as plus de cheveux.
J'espère pas, hein, je vais pas mentir, j'espère pas.
Bon, merci à tous encore une fois de nous avoir suivis. Énorme merci à Camille Sarabène, à la technique pour sa réactivité également. Et on vous dit donc à demain pour un nouveau live et à très bientôt sur tdactu.com. Ciao, ciao!
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.